bonjour à vous toutes et tous, fidèles ou novices de L'Or des Curieux. L'Or des Curieux, une émission écrite et présentée par Robert Giroux, à la prise de son, Simon Martin. Dans quelle mesure un instrument que la Vox Populi a assigné à une fonction distractive et à l'expression quasi unique de l'énergie et du plaisir, dans quelle mesure donc cet instrument peut ou non prétendre au titre d'instrument classique? Encore convient-il de s'entendre ici sur le sens à donner au mot classique. Ajouter ce qualificatif de classique au mot musique, et nous voilà dans l'Olympe, à tutoyer Ludwig von, Jean-Sébastien, Claude de France, Félix Mendelssohn, Gabriel Fauré et consorts. C'est être au pinacle de ce que l'on peut entendre par le mot musique. Celle qui, par sa hauteur d'écriture, pourrait presque penser plaire aux dieux. Et est-ce vraiment de cela dont il s'agit dès lors que l'on parle de banjo classique, puisque ce sera notre sujet d'aujourd'hui? Non, nous parlons ici plutôt de toucher classique, donc englobant certaines techniques de jeu plus expressives, plus nuancées, pour un rendu plus contenu, plus maîtrisé, plus diverse, et peut-être plus sensible aussi. On connaît la place des musiques traditionnelles dans la musique classique. Elle est indiscutable, mais elle est très circonstanciée. Elle n'est pas constante. Elle est un monde avant tout de référence pour un type d'expression précis. Alors classique dans le sens où l'on exprimera par son jeu des sentiments plus diversifiés, approfondis, jeu que l'on nuancera plus richement et sans entrave de convention. Classique aussi parce que ce jeu se devra peut-être aussi de servir une forme d'art relevant non plus de la tradition, mais d'une certaine éducation. Problématique, on le sait, qui fut celle de la guitare au XIXe siècle. Et les voix qu'empruntera le banjo seront à quelques détails près les mêmes. Les salons, les sociétés musicales, la transcription, l'écriture dédiée, les airs connus de tous, la lutherie. La nuance avec le monde de la guitare sera la place plus marquée accordée au jazz, du moins à ses formes premières, le ragtime, le blues, Scott Joplin, Jelly Roll Morton, univers dont le banjo est indiscutablement proche. Certains des premiers compositeurs pour le banjo auront cette écriture syncopée, balancée, ondulante et richement architecturée, propre à Scott Joplin, par exemple. Alors l'emploi du qualificatif classique, parlant de banjo, est là pour signaler non pas une réalité de fait, mais plutôt un vœu, une quête, une étoile à atteindre, comme dans la chanson de Jacques Brel. Le banjo classique, qui a déjà passé son siècle d'âge, approche chaque jour davantage de son but qui est à la fois le plus simple et le plus dramatiquement complexe. Extraire de quelques éléments et données basiques, sinon grossières, une forme d'art distinctive et la porter au plus haut. C'est ce que nous allons voir et d'une façon que je souhaite détendue et plaisante au cours de l'heure que nous allons passer ensemble. Rassurez-vous, il ne s'agira pas pour moi d'une plaidoirie ennuyeuse ou d'une leçon d'histoire qui, pour utile et passionnante qu'elle serait, me demanderait plus de temps que je n'en ai. Alors, comme il est tradition dans l'émission, j'axerai mon argument autour de l'écoute essentiellement. Ainsi resterai-je fidèle à ma devise qui ne tient qu'en un seul mot, suivi de 5397 points d'exclamation « Musique ».
By Ruby Brooks of Brooks Van Zanten at a Sun Record. Thank you.
Le banjo, c'est un peu cet ami que vous connaissez depuis toujours. Son esprit n'est pas le plus sophistiqué qui soit, ses vannes pas nécessairement les plus subtiles, mais son tour d'esprit a quelque chose d'unique et de rafraîchissant. Et il vous ramène toujours vers la joie. Il sait faire que la vie vous paraît moins lourde, moins tragique. Il me semble que c'est Willie Nelson qui avait écrit une chanson sur le banjo qu'il avait intitulée « On ne peut pas écrire une chanson triste sur un banjo ». Je me souviens aussi d'Alexandre Tarot, préparant son beau CD autour du fameux Bœuf sur le toit, annonçant avec bonheur quel en serait le programme, et se réjouissant d'avance en annonçant qu'il y aurait du banjo. Cet instrument est donc vu avant tout comme un pourvoyeur du bon temps, de l'insouciance, du swing et du sourire. Et c'est là, très certainement, une vue exacte. Même si pour quelqu'un comme votre serviteur, les qualités et possibilités de l'instrument ne s'arrêtent pas là, ne se limitent pas à cela. Plus un instrument connaît de limites, et plus sa place sera longue et difficile à faire. Alors voyons d'emblée ce qui fait le handicap du banjo, à savoir, dans un premier temps, ses limitations de registre. Le banjo, comme la mandoline, est un instrument à cordes pincées, dont la place dans l'instrumentarium classique reste à établir. Celle de la mandoline est peut-être un peu plus avancée grâce à Beethoven, à Vivaldi, à Calacci, à quelques autres, mais sur le fond, ce sont là deux instruments minoritaires quant à leur représentation. Instruments d'un emploi occasionnel et de caractère pour exprimer une humeur ou bien une spécificité d'un pays. Vous voyez qu'ici, nous ne sommes pas loin du magasin d'accessoires. Il faut avoir la lucidité et l'humilité de le reconnaître. Mais plongeons-nous de manière concrète dans ce qu'il en est des possibilités et limites du banjo. D'abord, son accord, dont il faut considérer les variantes d'un continent et d'un style de musique à l'autre, et considérer le fait qu'il y ait également un nombre variable de cordes au banjo. 4, 5 ou 6 cordes. 4 cordes pour un banjo ténor, 5 cordes pour les banjos classiques qui nous intéressent aujourd'hui, ou old-time, ou banjo bluegrass. Banjo sitar également, sur lequel on joue aussi de la musique classique. Et puis, banjo à 6 cordes pour le banjo guitare. Ce qui nous concerne donc aujourd'hui, c'est le banjo 5 cordes. Alors voyons un peu de quoi il retourne. 5 cordes et un accordage variable, selon la pièce à jouer. L'accordage de base sur un banjo est un accord de sol ouvert. Les cordes de la plus aiguë à la plus grave sont ré, si, sol, ré, et une cinquième corde plus aiguë qui est en sol. Il y a également un accordage de do, ré, do, sol, do et sol pour la cinquième, un accordage de ré, ré, la, fa dièse, ré et cinquième corde en la. Ce sont simplement quelques exemples d'accordages, il y en a vraiment des centaines. La nature du banjo fait qu'il ne demande qu'à jouer. C'est un instrument un peu ensorcelé et ensorcelant. Il ne demande qu'à jouer et ce faisant, il minimise d'emblée ses limitations de registre. On a à peine le temps de se demander comment on va s'en sortir, comment on va faire, que le jeu, déjà, répond à presque toutes les questions et rend caduques les autres. L'autre question est la sonorité de l'instrument. Sonorité ouverte et totalement claire. Mais se figure-t-on seulement que le banjo possède des basses et de très belles basses ? Tellement que ce sont elles qui m'ont attiré vers cet instrument dans un premier temps. Ces graves sont certes retenues, comme compressées, mais leur beauté est bel et bien là, que peut souligner certaines peaux que l'on emploiera pour le fût du banjo. Les peaux animales désormais proscrites produisaient des basses profondes, sombres, très belles, que peuvent quasiment reproduire à l'identique des peaux de synthèse, aujourd'hui bien plus réactives que par le passé. Les cordes maintenant. Celles qu'employaient les premiers banjoïstes classiques étaient en boyau, qui, comme sur le violon baroque, présentait un fort caractère d'instabilité. Elles se désaccordaient tout le temps. La sonorité produite était pourtant exceptionnelle, mais leur fiabilité les rendait très incertaines. Aujourd'hui, ces cordes sont majoritairement en nylon ou bien dans une autre matière synthétique, qui est une sorte de nylon amélioré, dans le sens où il est nettement plus musical. Cette matière s'appelle le nilgut. Nilgut, c'est une compression de deux mots, le mot nylon et gut, le mot anglais qui signifie boyau. C'est donc un moyen terme, mais très réussi. Alors si banjo classique il y a donc forcément répertoire classique. Répertoire qui consista dans un premier temps à adapter sur l'instrument les compositeurs et compositions qui s'y prêtaient. Schubert, Haydn, Bach, Liszt, Mendelssohn et même Cécile Chaminade, et oui, au banjo. Et puis ce qu'on nommait alors la musique légère, les airs d'opéra ou les choses comme ça. À cela s'ajoutait le corpus emprunté aux musiques traditionnelles. C'était donc à peu de variantes près le système qui prévalait pour les premiers temps de la guitare classique. D'abord montrer que l'instrument savait et voulait chanter, qu'il pouvait moduler et tenir et rendre sans faillir des structures musicales et des nuances bien plus avancées que tout ce dont on le croyait capable. Il fallait donc faire montre d'un tempérament et d'une évolution possible de celui-ci. Il fallait donc pour cela l'écriture, une écriture dédiée à l'instrument et qu'elle soit talentueuse, convaincante. Les premières grandes plumes du banjo seront anglaises, anglaises du continent ou bien migrées aux USA, comme seront anglaises les premières grandes factures instrumentales. Notez et appréciez ici mon impartialité. Moi qui, tel le grand rugbyman Immanuel Arinord Hockey, ne me consume pas nécessairement d'une tendresse infinie pour la perfide. Les premiers grands noms du banjo classique seront Alfred Kameyer et Joe Morley. Et nous allons nous arrêter un petit moment sur eux, surtout sur leurs œuvres. Un caractère léger, toujours plaisant, une écriture fine, franche, fraîche et sans chausse-trappe. Un beau travail sur les structures, les mouvements, musique légère, indubitablement, mais dépourvue de toute prétention malvenue. Il y avait d'abord le plaisir au premier rang, celui du jeu et d'une musique hospitalière et optimiste, et puis surtout le plaisir du public. Voyons d'abord Joe Morley, par qui tout aspirant banjoïste classique se devra de passer. Morley nous ramène au tout début du XXe siècle. Aussi, les premiers enregistrements qu'on pouvait entendre de lui étaient annoncés par une voix qui nous disait le titre du thème. C'était la voix de Thomas Edison en personne, qui classifiait et numérotait ainsi chacun de ses enregistrements. Mais pour plus de lisibilité, nous écouterons un jeune banjoïste, un virtuose d'aujourd'hui nommé Aaron Jonah Lewis, qui a sorti il y a peu un CD entièrement consacré aux œuvres de John Morley. Il va nous en interpréter quelques-unes à présent. Aaron Jonah Lewis. Thank you. Alfred Kameyer à présent, que nous interprétera un banjoiste d'aujourd'hui toujours, nommé Rob McKillop, sur ce que l'on nomme un banjo sitar, qu'on appelait un theater banjo, à la sonorité très fine, très cristalline, un peu fragile, et présentant un beau caractère de brillance et d'élégance. Banjo sans doute un rien moins sonore que son confrère, mais montrant beaucoup de délicatesse. Nous écoutons donc Rob McKillop dans un premier temps, et il sera suivi par un banjoiste auquel je tiens beaucoup, c'est un styliste extraordinaire, un banjoiste anglais qui n'est plus de ce monde malheureusement, il s'appelait Derek Lillywhite. C'est vraiment un grand musicien, il nous interprétera A Dancer's Dream d'Alfred Kameyer toujours. Joe Morley qu'Alfred Kameyer sont de grandes personnalités qui eurent des vies incroyables, très riches, pleines, étant à la fois des compositeurs, des instrumentistes, des directeurs de points de vente d'instruments et des enseignants aussi. C'était très important. Le temps dont je dispose ne me permet pas malheureusement de faire le détail de tout cela et je le regrette. Il me fallait choisir, j'ai choisi l'écoute. Je vous propose à présent un tour d'horizon de ce que fut le banjo classique durant tout le XXe siècle et l'évolution du jeu instrumental et de l'écriture pour le banjo. Nous commençons avec l'Américain Fred Van Epps. Fred Van Epps était le... Ce nom vous dit quelque chose, c'était le père de l'illustre guitariste jazz George Van Epps. Et il semblerait que dans cette noble lignée, on ait fait vœu de faire progresser l'instrument, l'interprétation, le jeu et d'élargir les possibilités initiales de l'instrument joué. Fred Van Epps apportera le cool au banjo, cette décontraction dans l'esprit et le geste faisant que jamais on n'aura la sensation qu'il force l'instrument, mais plutôt qu'il le laisse chanter, respirer, qu'il le traite en ami. Fred Van Epps est d'un délié, d'une aisance, d'une fluidité parfaite. Le banjo roule sous ses doigts et exulte à chaque note. La propreté clinique et propre au monde du numérique que nous connaissons est bien entendu absente ici. Il ne faut pas rechercher cela, comme elle l'était aussi sous les doigts, par exemple, de Pablo Casals ou Jano Starker encore, comme chez tous les pianistes ou violonistes historiques. La question valant pour eux étant alors de laisser vivre l'instrument et la musique. Fred Van Epps nous joue Cubist et Coconut Dance. Thank you. Comme je vous le disais plus haut, il m'a fallu faire des choix, faire l'impasse sur les biographies et sur un historique plein et détaillé. J'ai donc fait le choix du sommet de l'iceberg. Et que nous montre-t-il ? Qu'il y eut, bien sûr, des dizaines et des dizaines de compositeurs dignes du plus grand intérêt, que les grands instrumentistes se comptent par centaines littéralement. Comme toute effervescence artistique, la jeunesse du banjo classique fut une floraison de talents innombrables, dont l'apport fut déterminant. L'évolution est toujours une œuvre chorale, et ces grands révolutionnaires de ceci ou cela sont le plus souvent des opportunistes ayant le talent particulier et souvent discutable de savoir détourner les avions à leur profit. Alors bien entendu, quand on cite les noms d'Emile Grimshaw, de Wes Hossmann, de Fred Bacon, de William Parkhunter, de Paul Eno, de Ollie Oakley, de Shirley Spaulding, de Brooks and Benton, Tarrant Bailey Jr., Fred Van Eves, Joe Morley, William G. Ball, Emile Grimshaw. Évidemment, quand on cite tous ces noms, on n'aura pas cité les noms de ceux qui occupent les pages divertissement de Google, évidemment. Mais ce sont autant de noms importants, plus importants les uns que les autres. Il y a tout cela et tous les autres qu'on n'a pas le temps physiquement de citer. Il y a aussi celles que nous oublions, celles que nous ne connaissons pas encore. Aussi vous laisserai-je sur la page de l'émission quelques pistes pour vous y retrouver un peu dans cette histoire foisonnante, diverse, sinueuse comme l'est toujours la marche du monde. J'aimerais à présent que nous rejoignions l'histoire présente ou celle d'un passé présent afin de voir ce qui du banjo classique vit ou survit encore dans la musique d'aujourd'hui. Et les traces en sont si fraîches et revenues à une telle vivacité que l'on pourrait quasiment parler d'un renouveau du banjo classique. Alors écoutons quelques-uns de ces nouveaux noms qui sont de nouvelles promesses, de nouvelles chances pour un style de musique dont je pense qu'il pourrait avoir un avenir intéressant et radieux devant lui. Le premier nom que je vous propose est celui de John Bullard. John Bullard fut le premier des banjoïstes à interpréter Bach. Je veux dire par interpréter, jouer avec cette sorte d'aboutissement, de plénitude, qui fait que son instrument et lui interprètent réellement Bach, là où d'autres ne font que montrer qu'ils le pourraient, éventuellement. Question donc d'aboutissement et d'envergure du musicien. Il est ici dans la position du soliste d'orchestre et du musicien de chambre, position donc plus avancée que celle de ses prédécesseurs, John Bullard. Thank you. Les noms affluent par dizaines des jeunes banjoïstes classiques d'aujourd'hui, et avec eux, autant de propositions passionnantes. Ce que je vous disais pour l'histoire vaut tout pareillement pour aujourd'hui. Chacun et chacune d'entre nous, sans exception, est part de l'histoire. Bien sûr, on peut aimer les contes de fées, les grands artistes visionnaires, novateurs, que sais-je, les premiers de la classe qui ont tout bon à chaque fois, pendant que derrière on souffle péniblement et on pinaille. Il n'en reste pas moins cette réalité, l'aspect éminemment choral de l'histoire, où ce que l'on réalisera soi seul sera toujours infime. Et la beauté de savoir les choses ainsi faites. Nous nous quittons donc comme nous nous étions trouvés et comme je l'espère, nous ferons encore un joli bout de chemin ensemble, à savoir en musique. À très bientôt et que le meilleur soit sur vous et votre petite troupe. Rendez-vous sur la page de l'émission, sur le site de Radio Grand Ciel, pour quelques notes supplémentaires sur le banjo classique. Au revoir.